Le journal Yves Decamp.
Bonjour. 120 millions d'euros pour la lutte contre les violences faites aux femmes à l'occasion de ce 8 mars, journée internationale des droits des femmes. Emmanuel Macron annonce la création d'un fonds spécial annuel. Il a remis ce matin le premier prix Simone Veil de la République française à Aïssa Doumara, camerounaise, qui lutte depuis 20 ans contre les mariages forcés. De son côté, la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, annonce de nouvelles mesures contre l'endométriose, maladie des règles douloureuses, souvent mal diagnostiquée. Notamment, elle annonce des consultations obligatoires pour les jeunes filles. Et puis renforcer le congé de paternité pour mieux assurer l'égalité hommes-femmes. C'est une proposition du mensuel Marie-Claire dont la directrice de la rédaction, Marianne Mérès, sera notre invitée. Nouvelle journée de mobilisation en Algérie où l'opposition demande le report de l'élection présidentielle. La rue qui ne veut plus du président Bouteflika et qui n'entend pas céder.
Je vais continuer à manifester jusqu'à ce que Boutef et toute la clique et le système change.
La mobilisation devrait être massive dans les rues d'Alger où des milliers de personnes sont déjà rassemblées. En Italie, Salvini, Di Maio, pas d'accord sur le projet de liaison à grande vitesse entre Lyon et Turin. Le ton monte entre les alliés du gouvernement italien. Dans ce journal également, 7 personnes mises en examen pour viol et attouchement sexuel sur 3 enfants à Bourgoin-Jallieu dans l'Isère. La mère, le beau-père, l'oncle et la grand-mère sont placés en détention. La garde des Sceaux part en guerre contre les conseils de prud'hommes, des conseils qui n'appliquent pas les ordres. Ordonnance Pénico, Maxime Debs.
Ouais, avec une quinzaine de tribunaux, entrée en résistance, montée au créneau des services de Nicole Belloubet, une circulaire a été diffusée à l'adresse des intéressés. Panique à bord, nous dit-on, on verra ça.
On y revient tout à l'heure, bien sûr. Et puis une nuit de galère pour les 730 passagers du TGV Marseille-Paris. Ils sont arrivés ce matin un peu après 7 heures, avec 7 heures de retard. La météo, bonjour Jean-Pierre Hameau.
Bonjour Yves.
Un défilé de perturbations pour ce week-end.
Effectivement, avec cet après-midi, une première perturbation intéressant la Bretagne et la Normandie. Les pluies associées seront faibles. Le vent de sud-ouest soufflera jusqu'à 60 km par heure le long des côtes de la Manche. Et puis partout ailleurs, le ciel alternera éclaircies, parfois belles, et passages nuageux apportent temps de rares averses. Seul le pourtour méditerranéen, les Alpes du Sud et la Corse conserveront un bon ensoleillement. Et puis ce week-end, les perturbations vont se succéder dans un flux d'ouest en épargnant les régions méridionales.
Le bulletin complet à la fin du journal.
France Inter.
Elle se bat depuis 20 ans contre les mariages forcés et les violences sexuelles dans son pays, le Cameroun. Aïssa Doumara a donc reçu ce matin des mains d'Emmanuel Macron le premier prix Simone Veil de la République française. Au nom de cet engagement qui est le sien, souvent dans le silence et même l'opprobre, a lancé le chef de l'État en saluant la lauréate et le courage dont elle fait preuve pour remettre en cause le poids des héritages. Anne-Laure Bouzige, vous êtes à l'Élysée où Aïssa Doumara a répondu bien sûr avec une grande émotion.
Oui, elle racontait qu'une petite fille est mariée de force toutes les 3 secondes dans le monde et c'est son combat, Aïssa Doumara, depuis plus de 20 ans au Cameroun, pour celle qui a aussi subi un mariage forcé et qui est mère de 3 enfants.
En tenant ce prix entre mes mains, il me revient à l'esprit toutes les histoires et tous les discours que j'ai écoutés auprès des femmes qui viennent tous les jours dans nos centres pour solliciter des appuis. C'est l'histoire de cette petite que je pourrais nommer Yadou, dont le mariage avait déjà été organisé à la veille de son entrée en classe de 6e. À peine elle avait 12 ans. Et grâce aux actions de notre organisation, on a réussi à annuler ce mariage-là.
Aïssa Doumara, émue devant le portrait de Simone Veil, humble et déterminée dans son combat, la lauréate va recevoir 100 000 euros. Grâce à ce prix, elle va pouvoir financer la construction d'un centre pour femmes.
À toutes ces survivantes, les rescapées de Boko Haram, les femmes et les filles du monde entier, je dédie ce beau prix. Il est le mien et il est aussi le vôtre.
Aïssa Doumara, pleine d'espoir, rêve d'un monde sans violence où filles et femmes, ou garçons et hommes vivent ensemble dans le respect mutuel.
Anne-Laure Bouzige à l'Élysée avec Marcos Daras, le chef de l'État qui a donc annoncé également la création d'un fonds de 120 millions d'euros pour la défense des droits des femmes dans le monde. Les femmes qui sont invitées à manifester partout en France à partir de 15h40, heure théorique, à partir de laquelle elles travaillent gratuitement, si l'on considère bien sûr qu'elles sont payées en moyenne 26% de moins que les hommes, car le combat pour l'égalité homme-femme n'est pas gagné, bien sûr, même si de nombreux progrès ont été réalisés. Il y a notamment cet index de l'égalité au travail imposé aux plus grandes entreprises depuis une semaine et que toutes, d'ailleurs, n'ont pas encore publié. Mais il y a des réflexes qui ont la vie dure et le sexisme reste une réalité au quotidien, comme vous avez pu le vérifier, Valérie Cantier, en répertoriant sur le site franceinter.fr quelques curiosités de ces deux premiers mois de l'année, un florilège de propos ou d'actes sexistes déjà nombreux en juste deux mois.
Oui, alors déjà, ce qu'il faut dire, c'est que la liste n'est absolument pas exhaustive. On n'a eu que l'embarras du choix. Alors, par exemple, ce kit couture de voyage au logo de la CGT pour recruter de nouveaux adhérents, eh bien, la section CGT d'une entreprise a tout simplement distribué cet objet promotionnel uniquement aux femmes de la société, bien sûr. Alors, ou encore cette photo en février dans le supplément étudiant du Figaro, on s'en souvient, on y annonçait un accord entre les grandes écoles HEC et Polytechnique. En photo, les 8 signataires. Tous des hommes. Alors en réaction, par exemple, je vous cite ce tweet parmi tant d'autres. « Vous nous prévenez quand nous serons invités, EES, à vos petites sauteries, signé l'autre moitié de l'humanité. » Alors sinon, vous voyez les hôtesses en mini-jupe aux courses cyclistes ou automobiles épinglées à de multiples reprises. Eh bien, une marque de machines agricoles, cette fois au Salon de l'Agriculture 2019, Porte de Versailles s'en est inspirée cette année. La marque Bednar a affiché une photo de 7 jeunes hôtesses en talons et mini-robes jaunes bien moulante et bien sûr très décolletée, avec cette phrase « Sur notre stand, vous ne trouverez pas que de magnifiques machines. Venez vous en persuader de vos propres yeux. » Allez, pour finir, un magasin Ikea qui propose aux enfants une dinette pour faire, je cite, le prospectus comme maman.
Et on vous sent bien énervé, Valérie. Un florilège à retrouver sur franceinter.fr. L'égalité homme-femme, ça prend des chemins parfois inattendus. Ça passe aussi par de nouveaux droits qui pourraient être accordés aux hommes. Et oui, au papa, je veux parler du congé parental. Bonjour Marianne Mérès.
Bonjour.
Directrice de la rédaction du mensuel Marie-Claire, vous lancez dans le numéro de ce mois de mars, qui paraît aujourd'hui même, une campagne en faveur du congé de paternité, qui existe déjà bien sûr, mais qui selon vous doit être renforcée. Ce serait, dites-vous, une clé puissante de l'égalité homme-femme.
Alors, on en est absolument convaincus à la rédaction de Marie-Claire. On pense vraiment que le congé de paternité, en fait, n'est pas du tout considéré à sa juste valeur. Et quand on s'y penche un tout petit instant et qu'on imagine qu'en fait, la société pense qu'un homme et qu'un nouveau père ne devraient passer que 11 petits jours auprès d'un bébé, ça paraît totalement
aberrant.
Et vous
proposez 4 semaines.
4 semaines. Pour un premier pas, en fait, c'est le rapport de l'IGAS qui a été remis au gouvernement au mois de septembre qui le préconise, tout simplement. Donc on y va doucement parce qu'on sait que sinon, on n'obtiendra rien. Mais 4 semaines, c'est vraiment un petit minimum. Et effectivement, on pense véritablement que c'est ni un luxe, ni une lubie, mais véritablement une façon de partager la parentalité. Et on voit bien autour de nous aujourd'hui, toutes les femmes pourraient en témoigner, que la charge mentale, morale, la responsabilité, le souci de l'enfant leur incombe pratiquement en totalité. Et qu'en fait, le père a toujours le choix d'être disponible ou de ne pas être disponible, le choix de pouvoir s'en occuper ou de pas s'en occuper. Le père, il est contingent et la mère, elle est nécessaire. Et on pense véritablement que les deux sont nécessaires à l'enfant.
Alors Marlène Schiappa est parfaitement d'accord avec vous, elle le dit encore dans Le Parisien ce matin, hein. Oui, il faut allonger le congé de paternité, tout le monde est d'accord, mais ça ne se fait pas.
Allons-y alors, si elle est d'accord.
Mais ça coûte cher.
Et oui, mais là franchement, l'argent, bien sûr, c'est une question, mais là, c'est une question sociétale. C'est-à-dire, quelle société on veut, qu'est-ce qu'on veut pour nos enfants, et moi je pense qu'un enfant, il a besoin de son père et de sa mère, et qu'il faut décharger les femmes du souci domestique et du souci parental.
C'est une égalité des chances et c'est une égalité face aux risques professionnels également, finalement.
Exactement, parce que là, on sait très bien que la femme, elle est pénalisée par le fait d'avoir des enfants. D'abord par le congé de maternité, ensuite par rapport au fait que, comme la charge lui incombe à elle toute seule, évidemment par rapport aux horaires, par rapport à l'investissement, elle est obligée d'en faire deux fois plus. On sait que les retraites sont plus faibles, on sait que les salaires sont plus faibles. Donc professionnellement, ça permettrait aussi de rééquilibrer les choses entre les hommes et les femmes.
Alors, encore faut-il que ce congé paternité soit vraiment utilisé à pouponner.
C'est vrai, vous avez
rien,
raison,
rien,
vous avez raison.
Rien ne le vérifierait.
C'est vrai, vous avez raison. Non, mais
parce que là, les témoignages que vous présentez dans Marie-Claire, ce sont 12 hommes, mais ce sont des artistes, des politiques, des cadres supérieurs.
Pas seulement, il y a un témoignage où effectivement il y a des milieux plus populaires, mais En fait, moi je suis persuadée quand même qu'il y a beaucoup d'hommes qui voudraient prendre ce congé de paternité, pas tous certainement, mais beaucoup d'hommes quand même, mais qui ne se sentent pas autorisés parce que le regard de la société ne considère pas que c'est une nécessité pour un homme d'être auprès de son enfant, que quand on est dans une entreprise, c'est pas non plus facile de dire qu'on le prend ce congé de paternité puisqu'il n'est pas obligatoire. Donc moi je pense que si on écoute vraiment les hommes, ils seraient enclins à vouloir ce temps près de leur enfant.
Est-ce que c'est plus compliqué pour les cadres supérieurs parce qu'ils ont de grosses responsabilités oui. dans leurs entreprises. Donc c'est compliqué pour eux.
C'est plus compliqué, mais réfléchissez un instant, c'est aussi compliqué pour les femmes, en fait. Parce qu'il y a plein de femmes cadres supérieurs aussi, et elles trouvent des solutions. Donc bien
mais
sûr,
ce sont les réponses qui vous sont faites. Oui. Dans l'état actuel des choses, on ne peut pas prendre 4 semaines.
Ben si. On peut prendre 4 semaines. Nous, on est convaincus que les hommes peuvent prendre 4 semaines. Quand on décide de quelque chose, on s'organise après autour. Et vraiment, je pense que ce sujet n'est pas assez valorisé, n'est pas assez considéré. Et nous, on a lancé un grand think tank Marie-Claire depuis plusieurs mois. On réfléchit sur l'inégalité salariale, sur les femmes qui sont moins bien soignées que les hommes, sur l'éducation. Est-ce qu'on élève nos enfants, nos petits garçons, nos petites filles de la même façon? Et à chaque fois, le congé de paternité revient. À chaque fois.
Alors on le voit sur le congé parental, Marianne Mérès, qui est surtout utilisé par les femmes.
Oui.
Il est de 4 mois hein, oui. et il est surtout utilisé par les femmes.
Mais oui, parce que la société dit que la place de la femme est aussi du côté domestique et surtout du côté domestique. Et on le voit bien que quand je fais le parallèle entre la nécessité des femmes qui s'occupent de l'enfant et la contingence des hommes, l'homme il s'en occupe s'il a le temps, s'il le peut, si c'est possible. Et la société, en ne donnant que 11 jours aux hommes, valide en fait cette perspective. Et il faut absolument considérer que l'enfant doit être une question pour les pères autant que pour les mères. Et de cette façon, si les femmes seront libérées dans leur travail et pourront vraiment s'y atteler un petit peu plus, un petit peu plus légèrement aussi.
Pour un congé paternité de 4 semaines, enquête à suivre donc dans Marie-Claire de ce numéro de mois de mars de Marie-Claire. Merci beaucoup Marianne Mérès, directrice de la rédaction du mensuel. À l'occasion de ce 8 mars également, des mesures que vous approuverez sans doute, annoncées ce matin par la ministre de la Santé et des Solidarités, Agnès Buzyn. Mesures pour mieux lutter contre l'endométriose, maladie entre autres des règles douloureuses qui frappent une femme sur 10 mais qui reste très mal diagnostiquée. Agnès Buzyn ce matin sur France Info.
Nous allons créer des filières de prise en charge dans toutes les régions de façon à ce que les femmes sachent vers qui se tourner afin qu'elles soient mieux accompagnées pour la prise en charge de la douleur, pour la préservation de la fertilité, qu'elles puissent voir des professionnels qui sont plus spécialisés dans la prise en charge de cette maladie. Et puis, nous avons mis en place, dans le cadre du calendrier pour les enfants, des consultations obligatoires entre 11 et 13 ans et entre 15 et 17 ans. Et je ferai en sorte qu'au moment de ces consultations de 11-13 ans et 15-17 ans, des questions soient posées aux petites filles par les professionnels pour essayer d'identifier et de dépister cette maladie. Ça permettra de gagner du temps sur le diagnostic.
La ministre de la Santé qui confirme également que le projet de loi bioéthique prévoyant notamment l'extension de la PMA à toutes les femmes sera bien présenté au Conseil des ministres avant l'été, ce qui veut dire qu'il pourrait être adopté d'ici la fin de l'année. Et puis on n'oublie pas que cette journée des droits des femmes est une journée internationale. On l'a entendu tout à l'heure avec Aïssa Doumara, la Camerounaise, prix Simone Veil. C'est l'occasion de parler ce 8 mars d'un pays, le Yémen, où la guerre depuis 4 ans a transformé le rôle et la place des femmes. Le Yémen dont 3 représentantes sont de passage à Paris pour faire entendre justement la voix et la détresse des Yéménites. Un pays où 80% de la population a besoin d'une assistance humanitaire. Omar Waman les a rencontrés.
C'est pour faire entendre la voix des femmes du Yémen que Aïcha Tawab est de passage à Paris. Cette militante féministe, originaire du nord du pays, gère plusieurs centres de santé.
Depuis le début de la guerre, le rôle de la femme au Yémen est capital. Les hommes étant au front, parfois blessés ou morts, elles se retrouvent seules, soutien de famille. Elles sont également plus vulnérables face aux violences du quotidien.
Des violences qui ont poussé de très nombreuses femmes à fuir leur village, souligne Dalia Kassim, directrice d'une fondation dans la ville portuaire d'Odeida.
De nombreuses femmes vivent dans la rue. Elles ont tout perdu. Elles sont donc plus exposées aux violences, mais aussi au harcèlement. Du coup, on assiste à de plus en plus de mariages très précoces, de jeunes filles qui ont entre 9 et 16 ans à peine. C'est pour leur assurer une protection familiale.
Leur assurer une protection, mais également afin de bénéficier de la dot versée par la famille du futur époux, rappelle Dina El Mamoun de l'ONG Oxfam, basée à Sanaa, la capitale.
Les mariages précoces au Yémen ont toujours existé, mais aujourd'hui, nous voyons des femmes qui marient leurs filles très tôt pour subvenir aux besoins de leur famille. Les femmes au Yémen n'ont jamais été aussi vulnérables.
Des femmes qui se sont battues pour participer au processus de paix en cours à l'origine de la libération de très nombreux prisonniers.
France Inter, le journal de 13h, Yves Decamp.
À Bourgoin-Jallieu, en Isère, 7 personnes mises en examen pour viol et attouchement sexuel sur 3 enfants, 2 filles de 4 et 7 ans et leur demi-frère de 10 ans. La mère, le beau-père, l'oncle et la grand-mère ont été placés en détention provisoire. C'est le Dauphiné libéré qui a révélé l'affaire. Les faits se seraient déroulés de l'été 2016 jusqu'à la fin de l'année dernière. Des incestes intergénérationnels malheureusement quotidiens, déplore Martine Brousse. Elle est la présidente de la fédération d'associations La Voix de l'Enfant, au téléphone de Jérôme Cadet.
En matière de maltraitance physique, c'est 1 à 2 enfants qui meurent toutes les semaines. Et en matière de violence sexuelle, c'est tous les jours que les enfants sont victimes de violences sexuelles. Alors, c'est vrai. À chaque fois que des affaires comme cela sortent, on se dit « mais ce n'est pas possible, on avait dit plus jamais ». Et à nouveau, nous sommes confrontés. Je pense qu'il va falloir vraiment prendre des mesures. Nous savons que notre nouveau secrétaire d'État, M. Adrien Taquet, en fait une priorité et on ne peut que s'en réjouir. Mais au-delà des mots, il va falloir poser des actes. Aujourd'hui, d'un département à l'autre, puisque ce sont les départements qui ont en charge la protection de l'enfance, d'un département à l'autre, vous avez tel ou tel critère pour repérer la maltraitance. Les critères ne sont pas les mêmes. Donc il nous faut absolument un référentiel national.
En rappelant le numéro de l'aide à l'enfance, le 119. À Condé-sur-Sarthe, les surveillants pénitentiaires toujours mobilisés pour le 3e jour consécutif. Après l'agression de 2 gardiens par un détenu radicalisé mardi, ils réclament des effectifs et des moyens. Quand la justice entre en guerre contre les prud'hommes, situation non pas inédite mais rarissime, où l'on voit la garde des Sceaux monter au front contre une fronde des conseils de prud'hommes qui sont chargés de gérer les conflits du travail, des conseils dont certains, une quinzaine de tribunaux à peu près, refusent d'appliquer le barème des indemnités de licenciement prévues par les ordonnances pénicaux. La ministre de la Justice demande donc aux procureurs généraux des cours d'appel d'intervenir, Maxime Debs.
Et les services de Nicole Belloubet ont diffusé récemment une circulaire où est sollicitée en effet l'intervention des procureurs généraux dans les tribunaux qui ne suivraient pas le fameux barème. Il y a là une ingérence de l'État dans le travail des juges, dénonce Judith Krivine. Elle est responsable de la commission sociale du syndicat des avocats de France et pour elle, tout ça témoigne d'un affolement général.
Pour moi, il y a une panique à bord. De nombreux conseils de prud'hommes résistent et ils essayent par tout moyen d'influencer les décisions que rendront les cours d'appel.
Problème pour cette avocate, les juges sont libres de leurs décisions. Oui, mais tout de même, le ministère y va de son rappel. Le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel ont validé la mesure. Sauf que, Vincent Charmoyau est le secrétaire général du syndicat de la magistrature.
Sauf que ces deux décisions, elles n'ont aucune forme d'autorité sur les juridictions concernées, sur l'interprétation qu'elles peuvent donner. Donc c'est une manière d'extrapoler, d'essayer de trouver des arguments d'autorité qui en fait ne s'appliquent pas en l'espèce.
Le syndicat de la magistrature qui déplore qu'en la matière, le ministère se garde bien en revanche de rappeler qu'en 2016, un pays, la Finlande, fervente de ce même type de barème, a été condamné par le Comité européen des droits sociaux. L'affaire pourrait être tranchée devant la Cour de cassation.
Maxime Debs, en Algérie, nouvelle manifestation cet après-midi contre la candidature du président Bouteflika, lequel a mis en garde hier contre une éventuelle infiltration de la contestation par des éléments étrangers, évoquant même un possible chaos, ce que personne ne croit du côté de l'opposition algérienne qui demande aujourd'hui un report de l'élection présidentielle prévue le 18 avril, Leila Berato à Alger.
Sous une tente face aux journalistes dans les locaux du parti de Ali Benflis, ils sont plus d'une vingtaine autour de la table. Ces personnalités et partis d'opposition font tous le même constat sur la situation du pays.
Les prochaines élections présidentielles représentent une menace sur la stabilité du pays et sur la cohésion sociale et sur l'unité nationale.
Ceux qui discutent sont des habitués de la politique, des partis démocrates aux islamistes en passant par ceux qui ont été au pouvoir et les trotskistes. Pourtant, ils souhaitent tous le report de l'élection. Abderzak Makri, leader du principal parti islamiste, le MSP.
Toutes les parties présentes ici, que ce soit des partis politiques ou des personnalités, ils convergent tous vers le report de ces élections-là. Beaucoup parlent qu'il faut maintenant débattre, il faut négocier avec ceux qui sont en place pour une transition et aller vers un autre processus électoral sur de nouvelles bases constitutionnelles et légales.
Mais dans l'après-midi, Karim Tabou, ancien leader du FFS, un parti d'opposition démocrate, finit par quitter les locaux, estimant que l'opposition fait de la politique, comme les autorités. À Alger, Leïla Berhatou, RFI pour France Inter.
Pour le troisième vendredi de suite, les mouvements d'opposition, mouvements de jeunesse, associations ont appelé à descendre dans les rues contre la cinquième candidature d'un président très affaibli qui a dit ne pas vouloir y renoncer. Mais la rue algérienne non plus ne semble pas prête à céder. Si l'on en croit Farouk, étudiant en sciences humaines à Alger, joint ce matin par Thibaut Cavaillès.
Je vais continuer à manifester jusqu'à ce que Bouteflika et toute la clique et le système change. Je suis très content de voir que le peuple, en fait, il est vivant. Dans ma vie de tous les jours, dans la vie de tous les jours, on voit des contradictions, on voit des oppositions, des incompatibilités entre Algériens, mais tout ça, c'est n'existe plus, quoi. Il y a un patriotisme qui s'est tissu ces derniers jours, depuis le 22 février. On veut bâtir une Algérie pluraliste, une Algérie démocratique, républicaine, et je crois que le peuple algérien, il est vraiment prêt pour ça, vu tout ce qu'il a subi via l'histoire. Pour moi, on est toujours en manifestation, pas que le vendredi, même les mardis, même en famille, parce qu'on en parle entre nous. C'est tout le monde qui a des discussions à Tizi Ouzou, à Oran, à Constantine, à Béjaïa. On s'exprime pratiquement tous les jours, pas uniquement le vendredi.
Et des milliers de manifestants sont déjà rassemblés au centre-ville d'Alger. De nombreuses femmes devraient d'ailleurs être présentes dans le cortège en cette journée du 8 mars. En Italie, c'est la liaison dangereuse pour le gouvernement. Le projet de ligne à grande vitesse Lyon-Turin divise plus que jamais les deux alliés de la Ligue et du mouvement 5 étoiles. La Ligue de Matteo Salvini, favorable au projet, qui se retrouve d'ailleurs une fois n'est pas coutume du même avis que la France, contre le vice-premier ministre Luigi Di Maio qui s'y oppose. Ce n'est pas encore le divorce, mais le ton est encore monté d'un cran au sein du gouvernement de coalition, Olivier Tosseri.
Oui, c'est le tunnel de la discorde pour le gouvernement italien et aucune lumière de réconciliation n'est pour l'instant en vue. On ira jusqu'au bout, promettent la Ligue et le mouvement 5 étoiles. Pour la première, ce serait criminel de renoncer à une infrastructure qui relance les investissements et crée des emplois alors que le pays est en récession. Pour la seconde, c'est une hérésie de creuser un trou dans une montagne qui ne sert à rien, comme l'a dit le ministre italien des Transports. Pour le mouvement 5 étoiles, c'est un gouffre financier, une folie écologique, mais surtout une question de principe, celui de ne pas renoncer à son principal cheval de bataille, la lutte contre ce projet ferroviaire lancé dès l'origine du mouvement 5 étoiles. Alors les deux parties estiment avoir été trop conciliants avec l'autre jusqu'à présent. Le TGV Lyon-Turin leur donne l'occasion de rassurer leur base électorale à deux mois du scrutin européen et surtout leur offre un prétexte idéal pour rompre une alliance qui montre de jour en jour ses limites, ses incohérences, mais surtout son immobilisme.
Olivier Tosseri à Rome. À propos de TGV, toute une nuit dans le train pour les 730 passagers d'un Marseille-Paris. C'est un voyage dont ils se souviendront. On a vu souvent des TGV arrêtés en rase campagne, mais là c'est le pompon. Un énorme concours de circonstances que raconte Maëlle, 23 ans, l'une des victimes, entre guillemets. Il est au téléphone de Mathilde Dehimi.
Après Aix-en-Provence, tout de suite, apparemment les chefs de bord ont décelé qu'il y avait un problème. Donc on a été arrêté à Valence pendant 40 minutes. On nous a indiqué qu'on partirait en direction de la gare de Lyon, pardieu, et qu'on roulerait à une vitesse de 160 km/h parce qu'il y avait des bruits anormaux sur les premières voitures. Et en fait, une fois arrivé à Lyon, on nous a indiqué que le train ne partirait plus. Il fallait qu'on change de train et que celui-ci partirait qu'à 4h30, 5h du matin. Très vite, les chefs de bord nous ont dit que 800 personnes à loger, c'était impossible, surtout à cette heure-ci. Donc la seule solution qu'on avait, c'était de dormir dans le train. On nous a donné des plateaux repas vers minuit 45, 1h du matin. Enfin, on nous a posé des cartons de plateaux repas dans les poses bagages, idem avec les kits de nuit qu'on a déposés carrément devant la porte. Et à partir de ce moment-là, on n'a plus vu de personnel jusqu'à 4h du matin, heure de départ du train. On est parti à 4h. Au bout de 11 minutes, on s'est arrêté pendant 15 minutes parce qu'on n'avait pas l'autorisation de rouler. On est enfin reparti. On devait arriver normalement à Paris à 6h20 et en fait à 7h05. Moi, j'ai pas dormi du tout en tout cas. Ça a été compliqué. Il y a beaucoup de bébés qui pleuraient. Il n'y a même pas eu de suivi en fait. Il y a eu une gestion de crise qui a été lamentable.
Voilà, s'endormir ou presque et directement au boulot ce matin. Les emmerdes, ça vole en escadrille, comme disait Jacques Chirac, paraît-il. J'ai testé pour vous la rubrique de ce 13h tous les vendredis. Aujourd'hui, Van Gogh, la nuit étoilée à l'Atelier des Lumières à Paris, dans le 11e arrondissement, dans cette ancienne fonderie. On propose au public, avec une exposition numérique, une immersion dans les œuvres du grand peintre hollandais. Après Gustav Klimt, Van Gogh, en grand. Jacqueline Pétrose, ce spectacle, c'est vous qui l'avez testé pour nous.
Oui Yves, et puis c'est impressionnant, il faut bien le dire. 3300 mètres carrés de surface sur 10 mètres de hauteur et vous avez 140 vidéoprojecteurs qui vous font entrer vraiment dans les tableaux. 450 tableaux de Van Gogh, une cinquantaine de dessins, du sol au plafond, on est vraiment intégré dans les tableaux. On suit Van Gogh de la Hollande à Paris jusqu'à Arles. Gianfranco Iannuzzi est le concepteur de ce parcours.
Ce n'est pas une présentation virtuelle des tableaux. Les tableaux, il faut les voir dans le musée. Nous, on essaie plutôt de transmettre au public de tous âges une émotion, quelque chose qui peut passer ce que Van Gogh a voulu exprimer dans sa vie. Sa vie coïncide avec sa peinture. C'était comme une météore qui est passée dans l'histoire de la peinture. En très peu de temps, il a produit milliers d'œuvres. Nous, on raconte un peu son histoire et son message à l'humanité.
Alors, les œuvres se fondent, elles glissent de l'une à l'autre, des tableaux sombres des premiers temps à ceux pleins de lumière, et puis brutalement, le soleil éclate dans notre tête, comme il a éclaté sans doute dans celle de Vincent. Sur le mur de la grande rotonde installée au milieu de la halle, on voit en gros plan les coups de pinceau, et on comprend alors totalement l'urgence de peindre de Van Gogh.
C'est grandiose, mais il y a des bémols.
Bon, alors d'abord, attention à la tête qui tourne. Hein. On veut regarder partout en même temps. Si on bouge, on est un peu pris de vertige, car le sol aussi est mouvant. Et puis, je n'ai pas été totalement convaincue par la bande-son. Mais ce qui est sûr, c'est que ça change notre façon de voir une œuvre. Nous ne sommes pas au musée. Attention, il faut bien le préciser. C'est une autre proposition artistique. C'est ce qu'explique Michael Gouzigou, le directeur de l'Atelier des Lumières.
Aujourd'hui, on arrive quand même à créer des univers totalement immersifs. Et c'est vrai que ça peut parfois dérouter le public, mais c'est aussi ça qui est assez intéressant, c'est de choquer aussi un peu le public et de faire sortir le public des sentiers battus, des expositions traditionnelles, même de la relation qu'on peut avoir avec le cinéma, avec la télé, avec l'écran. Là, on est vraiment à l'intérieur de l'image. Donc c'est une autre expérience, c'est une nouvelle expérience.
C'est vraiment quand même très impressionnant, on peut le dire. Et puis à noter aussi le programme qui est proposé ensuite sur le Japon, une petite merveille également avec la vague de Hokusai qui déferle et des lanternes qui s'envolent.
La nuit étoilée, c'est donc à l'Atelier des Lumières à Paris dans le 11e arrondissement consacré à Vincent, comme vous dites Jacqueline.
Oui, très intime après ça.
Allez, pour terminer, un dernier mot de sport, direction Östersund en Suède, moins 13 degrés au thermomètre, au meilleur de l'après-midi, c'est là que se déroulent depuis hier les championnats du monde de biathlon. Après le relais mixte, place tout à l'heure à la première épreuve individuelle, le sprint féminin. Une Française sera particulièrement observée, Justine Brezaz, la pépite du biathlon français, mais une pépite qui a du mal à éclore. La biathlète est un peu à part aussi, puisque elle est sans filtre, la Savoyarde. Elle n'hésite pas à afficher ses failles, à exprimer le doute qui ronge bon nombre de sportifs de haut niveau, Fanny Lechevestrier.
Sa sensibilité à fleur de peau prend souvent le dessus, comme ce matin-là où, tout en sincérité, elle vous explique son début de saison manqué.
Pour être honnête, la motivation, elle était un petit peu en deçà. J'avais un petit peu plus de pression et je pense que j'ai pas su gérer tout ça. Cette montée à la lumière des médias et puis aussi de mes propres attentes, c'est la tête qui a d'abord été touchée. Et ça, c'est difficile de le relancer quand en fait tu te prends bâche sur bâche. J'allais pas bien.
Trop d'attentes, trop de médias autour de la jeune femme de 22 ans qui n'aime rien tant que retourner dans la ferme familiale. Problème, la Française est présentée comme le grand espoir du biathlon français avec des qualités physiques hors normes. Une victoire au Grand Bornand il y a un an et demi n'a fait qu'accroître cette idée. Sauf que depuis, plus rien. Alors aujourd'hui, Justine Brezaz va tenter de changer de credo.
J'en suis au point que j'ai envie de retrouver le jeu. J'ai envie de m'amuser, j'ai envie de faire ça pour moi. Bien sûr, j'ai des attentes. Les entraîneurs en ont certainement aussi, mais c'est pas mon business. Je sens que l'envie, elle revient, vous voyez? Oui, l'envie, elle revient.
Et le patron du biathlon français, Stéphane Boutiot, de conclure, Justine est capable de tout, de finir 70e, comme d'aller décrocher l'or tout à l'heure.
Le sprint féminin championnat du monde de biathlon en Suède, cet après-midi, le temps...
La météo
Avec Préfonds, la retraite et la prévoyance de la fonction publique. Les jeunes fonctionnaires font le bon calcul sur prefonds-retraite.fr.
Week-end perturbé, Jean-Pierre Hameau.
Avec ce flux océanique, les températures restent douces pour la saison. Les maximales cet après-midi seront comprises en général entre 11 et 15 degrés, comptez 15 à 20 dans le sud. Dans le détail, prévoyez 11 degrés à Cherbourg, 12 à Lille, 13 dans la capitale, mais aussi à Tours, Strasbourg, Dijon et Limoges, 14 à Lyon et Toulouse, 15 à Bordeaux. La douceur sera plus marquée dans le sud, avec 17 à Perpignan, Toulon et Bastia, comptez 18 à Montpellier, 19 à Nîmes, on ira jusqu'à 20 degrés à Cannes. Et puis côté ciel, une nouvelle perturbation à bord de la Bretagne, puis la Normandie cet après-midi. Partout ailleurs, le ciel sera partagé entre éclaircies parfois belles, avec des nuages lâchant quelques averses par endroits. Seul le pourtour méditerranéen sera épargné et conservera un beau soleil. Et puis ce week-end, les perturbations vont se succéder dans un flux d'ouest en épargnant les régions méridionales.